Ok. Shem Aparasha, Lech Lecha. Donc aujourd'hui, on va s'arrêter sur le nom de la Parasha, Lech Lecha. Adavar Arishon, Shem Saperet la Noa Torah, la Yudi Arishon. La première chose que la Torah nous raconte sur le premier juif de l'histoire, Avraham Avinu, ou Ativu Yapoteach et Parashatenu. Le premier juif de l'histoire, la première personne qui a eu l'appellation juif, c'est Avraham Avinu. Ni Noach, ni Adam Arishon ont été appelés juifs. Le premier juif, c'est Avraham Avinu. Et la première chose qu'on nous raconte sur ce juif, c'est l'ordre qui démarre notre paracha, qui dit « Vayomer Hashem el Avraham, lech lecha ». Dieu a dit à Avraham, « Lech lecha, va-t'en ». D'accord ? Donc « Va-t'en pour toi, va-t'en où ?» Il devait aller donc en Eretz Israël. « Ugam shma shel kol lech lecha, ugam shma shel kol paracha ». Lech lecha, c'est aussi le nom de la paracha. D'accord ? Donc bien que les noms de paracha, on n'est pas sûr s'ils existaient déjà à l'époque de la Gemara, mais puisque aujourd'hui c'est devenu un minag, ça fait déjà plus de 1000 ans que c'est devenu le nom de la paracha, ça veut dire qu'on est obligé de dire que le nom de la paracha a un rapport avec toute la paracha.
C'est pas seulement pour mémoriser.
Non. C'est pas seulement pour mémoriser. Parce que dans la Torah, il n'y a rien qui est là au hasard. Et si ça a été classé sous le nom Lech Lecha, d'accord, ça veut dire que c'est un rapport direct avec ce qu'on va parler dans la paracha. Bon, très bien. Allez, je garde pratique.
Il est trop fort, va dire. Il est un aimant.
Mais moi, je sors avant. Hein.
Alors,
je suis parti jusqu'à là-bas pour revenir.
Donc, on a dit comme ça. On a dit que la première chose que la Torah nous raconte sur le premier juif de l'histoire, qui est Avraham Avinu, c'est l'ordre avec lequel Akadosh Baruch Hu donc démarre notre paracha. Vayomer Hashem el Avraham lech lecha. Hashem a dit à Avraham, va-t'en. Et on a dit que lech lecha, donc va-t'en en Eretz Israël. Lech lecha, c'est pas seulement le premier ordre qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Avraham Avinu. C'est aussi le nom de la paracha. Donc on a donné le principe que le nom de la paracha a un rapport avec toute la paracha. Des fois on arrive à le trouver, des fois on n'arrive pas à le trouver. Mais le nom de la paracha dans la Torah, c'est un rapport avec toute la paracha. C'est pas seulement un index. Il dit, bon, on a trouvé un index, alors... Non. Dans la Torah, le nom a un rapport. C'est comme ça. C'est comme le nom d'une Gemara, le nom d'une Mishnah. Le nom, dans le nom d'une chose, on retrouve l'essence de la chose. Après, il faut la chercher. Alpi Aklal, Sha Torah et Nitrit. Selon le principe que la Torah est éternelle. Ve'oraote at kefot b'cholzman l'ufrol makom. Et que les enseignements de la Torah sont valables en tout temps et en tout endroit. Donc, évidemment, on a déjà un premier enseignement, déjà dès le début de la paracha. C'est quoi ? Ativu ilech lecha, l'ordre que Dieu dit à Abraham, va-t'en, avance. Mais la main de Tanou, ça nous apprend, qu'Adavar Arishon va'ikari shenidrash miyehudi, que la première chose essentielle qu'on demande à un juif, c'est quoi ? Hu la lechet. On lui demande de marcher, d'être constamment en état de marche.
Walker.
L'yot tamid de matav shalalicha, d'être constamment en train de marcher. L'hit kadem, de s'avancer. L'hit alot, d'augmenter. Ça, c'est un premier point. D'accord ? Donc, quand on sait très bien que la Torah est éternelle, et donc, on n'est pas là simplement pour nous raconter une histoire. Si on nous a raconté l'histoire avec Avraham Avinu, c'est pour nous apprendre quelque chose. Et de la même manière que Dieu a exigé à Avraham d'avancer constamment, il est évident que nous, comme enseignement, on doit tirer qu'un juif doit constamment avancer. On ne stagne jamais. Si on stagne, ça veut dire qu'on recule. Mais c'est pas sur ça qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Shemaïnim Mehemcher Aparasha, lorsqu'on s'approfondit dans la suite de la paracha, c'est vrai qu'au début de la paracha, on voit effectivement comme Avraham Avinu il va monter. Donc il va partir de. Il va aller vers Eretz Israël, et après il va aller progressivement vers Jérusalem, etc. Donc on voit qu'il va monter en puissance, il va monter en Kedusha. Mais regardez bien. Samuch Mehod Letzivu Ilech Lecha, peu après l'ordre que Kadosh Baruch Hu a donné à Avraham Lech Lecha, ira la Avraham Davar Shelich Ora ou Efer Mealicha Veit Alut. Est arrivé à Abraham quelque chose qui est a priori le contraire d'une marche et le contraire d'une montée. C'est quoi ? Quoi on parle ? Le pasouk nous raconte Vayei Ra'av Ba'aretz. Rappelez-vous, Abraham Avinu est monté en Eretz Israël. On monta en Eretz Israël pour monter en puissance. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il arrive en Eretz Israël ? Qu'est-ce qu'il accueille ? La famine. Vayei Ra'av Ba'aretz. Donc Abraham se retrouve obligé de redescendre. La Torah nous dit explicitement le mot Vayered. Oui. De redescendre en Égypte. Abraham, Ne'elat. Avraham a été obligé, la tset meret Israël, de sortir d'Israël, vela redet le mitraël, miglal araav, et de redescendre en Égypte à cause de la famine. Ayerida azot les mitraïm, cette descente en Égypte, gam garma les kirata shel Sarah al bet paro. C'est ce qui a causé aussi le fait que Sarah a été kidnappée dans la maison de Paro. Ve'afalpi shebepoel egen alea kadosh baro butne dvarim bilti ritsuim. Bien que dans les faits, on sait qu'il n'y a rien qui s'est passé chez Paro. Qu'elle n'a pas été souillée, comme le Midrash dit, elle n'a même pas été touchée. Elle n'a même pas réussi à la toucher. Mais, les kichata les bêtes paro, yeshba, michum, iridavetsar, on est bien d'accord que quoi qu'il en soit, le fait qu'elle a été kidnappée, c'est une descente, c'est une souffrance. D'accord? Donc on a deux événements ici qui nous parlent de souffrance. Qui sont, dans lesquels on voit clairement une descente. Premier événement, le fait qu'Abraham se retrouve obligé de descendre en Égypte. D'ailleurs, même géographiquement, on descend. Quand vous voyez sur la carte, quand on va dire Israël à l'Égypte, on descend. D'accord ? Donc, premièrement, il a été obligé de descendre en Égypte parce qu'il y avait la famine. Deuxièmement, il arrive en Égypte, sa femme se fait kidnapper. Parce qu'on a pire que ça, une descente. Bien sûr qu'elle n'a pas été touchée, mais dans les faits, elle a été kidnappée. Alors, c'est quoi le problème ? Donc, je suis à la page suivante. Mito Reret Kanachela, on a la question qui s'éveille. Echa Yerida Azot Ba Bemshech Echa Lelech Lecha. Comment cette descente peut venir à la suite de l'Ech Lecha? On a dit que c'est quoi l'Ech Lecha? Le concept de l'Ech Lecha, ça veut dire quoi? Ça veut dire être constamment en état de marche, constamment en train de monter. Et là, on a un problème. Comment cette descente-là peut faire partie de la montée? Normalement, quand on monte, on n'arrête pas de monter, on ne descend jamais. Venir Chlelet, Veparasha, Sheshma, Vetorna, l'Ech Lecha. Comment ces deux épisodes vont être inclus dans une paracha qui est appelée et qui est dénommée l'Ech Lecha, le Mouvan Shalalicha Mikhail El Khaïd. On a dit que l'Ech Lecha, ça veut dire monter, d'accord, de niveau en niveau, comme dans une échelle. On ne peut pas descendre, si on descend, il y a un problème. Donc on a dit, encore une fois, le nom d'une paracha, d'accord, c'est pas un index, c'est pas comme ce qu'on a dans les autres livres, que le nom c'est... Normalement, c'est comme dans un livre, vous savez. On dit en général qu'un bon titre d'un livre, c'est un titre qui est capable d'avoir un rapport avec tout le livre. Tout le livre tourne autour de ce titre. D'accord,
comme une chanson. Donc cette descente est une montée quelque part.
Attendez. Donc le nom de la paracha, il est évident que c'est un nom qui nous décrit ce qui se passe dans la paracha. Donc nous, tu me dis le mot est l'Ech Lecha. L'Ech Lecha, ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut être constamment en état de marche. Abraham, il n'arrête pas de monter. Excuse-moi, mais j'ai deux épisodes dans lesquels Abraham est descendu. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc comme M. Bismuth a dit,
a priori,
on va être obligé de dire. Mais il faudra expliquer comment.
Ah oui.
D'accord.
C'est ce qu'on appelle un raisonnement a posteriori.
Donc, si c'est on est obligé d'arriver à la conclusion, mais il faudra expliquer comment. On est obligé d'arriver à la conclusion que cette descente est une montée quelque part.
Bien sûr. L'épreuve est une montée.
Ah, attendez, on va voir. Pourquoi et comment? Attendez. Pourquoi Dieu ne peut pas faire monter une personne sans l'épreuve?
Bah, peut-être qu'elle ne tiendra pas.
Pourquoi?
Parce qu'elle a pas été...
Imaginons que Dieu a envie de m'amener un résultat. Il ne peut pas m'amener ce résultat sans l'épreuve?
Elle n'a pas été
prouvée. Il peut?
Non, mais elle n'a pas...
Attends. Que je n'arriverai pas en juillet.
Il ne s'est pas construit.
Alors, on va voir. Regarde. On va voir le texte. Et ça, c'est un concept énorme.
Le mérite, peut-être.
Dougma. Non. C'est pas le mérite. Non. Là, le mérite, c'est pas bon, puisqu'on dit qu'Abraham, il doit monter. Là, il n'est pas monté, il est descendu.
Oui, mais...
Non.
C'est une épreuve qui est montée.
Il est descendu. Alors, on va...
Donc, ça va le faire monter encore plus.
Dougma. Regardez bien ce qu'il va dire ici. Dougma Shetuchal Le Asbirzot. Un exemple qui pourra expliquer ça. Vous allez voir qu'avec ces hommes, on va très très bien comprendre. Comment Akadosh Baruch Hu est obligé des fois de nous faire descendre pour nous faire monter. Regardez. D'accord. Shita Talimut Shel Talmud Bavli. On va un exemple de ça. On va analyser ensemble la manière, la méthode d'étude du Talmud de Babylone. Le Talmud qu'on étudie. Yadou Ahevdel Ben Talmud Yerushalmi Le Bavli. La différence est connue entre le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone. C'est quoi? Chez le Talmud à Yerushalmi, en avait couché de Diyunim. Dans le Talmud de Jérusalem, on n'a pas beaucoup de questions. D'accord? On n'a pas beaucoup de développement. Et la Miyad Magim et la Maskana, tout de suite, on arrive à la conclusion, Vel Psak Alacha et Alalacha. C'est très intéressant. Quand on ouvre le Talmud de Jérusalem, on a l'impression qu'on ouvre un livre de Alacha. Bon. Le Umazot, à l'encontre de ça, le Talmud à Bavli, dans le Talmud de Babylone, Yesharbe Kushiot ou Pilpulim. Tous ceux qui ont déjà assisté à un cours de Gemara savent que dans le Talmud de Babylone, on a beaucoup de questions. On a beaucoup de Pilpulim, c'est-à-dire on a beaucoup de développement. Vera Kachare Yigia Rabba. Et c'est seulement après une grande fatigue, c'est-à-dire qu'on va tâtonner, on va essayer une réponse, après elle va marcher, une autre, ça va pas marcher. C'est seulement après une grande fatigue Matslichim levarer et halacha. C'est seulement là que qu'on va réussir à déterminer la halacha. Très bien. Maintenant, je vous pose une question. D'après vous, quelle méthode est la meilleure, le Talmud de Babylone ou le Talmud de Jérusalem? Celui qui me donne directement le chemin ou celui qui me laisse en plan et qui me dit bon, trouve tout seul le chemin?
Si c'est pour l'efficacité, c'est le Yerushalmi. Mais si c'est pour l'enseigneuse,
donc Monsieur Bissouti me dit pour l'efficacité, d'accord? Pour l'efficacité, vous me dites que le Talmud de Jérusalem est bon. Maintenant, je vous pose une question. Si un jour on a une marloquette entre le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem, d'après vous, lequel on devrait suivre aujourd'hui?
Pile ou face?
D'abord, il faut voir quelles sont les réponses des deux. Si elles sont développées.
Non, les deux, il y a une marloquette. Hein, il dit blanc, l'autre dit noir.
Est-ce possible
D'après moi, on est dans le Babylone.
Logiquement, on aurait dit Jérusalem, il a raison. Parce que Babylone, on dit, bon, ils étaient en plan, ils ont essayé de trouver une réponse, bon, ils ont trouvé. Mais Jérusalem, c'est vrai qu'ils savaient.
Il est fait pour les galoutés.
Attendez.
C'est nous, les galoutés.
Regardez. Afalpiken. Bien qu'on a expliqué ce qu'on a expliqué, qu'a priori, celle qu'on l'a expliqué, ben, le Talmud de Babylonie, bon, on est en plan, quoi. On nous a laissé en plan. Keshiyash machloket belchina Talmudim. Lorsqu'on a une machloket entre les deux Talmuds, de Babylone et de Jérusalem, Alacha et Kebavli. L'Alacha suivra toujours le Talmud de Babylone. Pourquoi? Sheken besofo shel davar, puisque au bout du compte, et là on va répondre à votre question, M. Daniel, Davka l'idée à Kushyot ve Adiyunim, le Kan ou le Kan, c'est parce qu'il y a eu des questions et des développements, et on est passé d'un côté et d'un autre, Magim el Omek a même eu un développement et qu'on est parti de deux côtés, que c'est ça ce qui va nous permettre d'arriver au profondeur de la Lacha. Bifnimiyu Tainyanim, ça veut dire que dans la profondeur, Afakushya Ichelek Meatiruts. En profondeur, la question fait aussi partie de la réponse. C'est-à-dire comme ça. On va analyser ensemble la différence qu'il y a entre le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem. Dans le Talmud de Babylone, on va arriver à 20 questions, on va passer par 20 questions pour arriver à une réponse, au bout du compte. Alors que le Talmud de Jérusalem, il n'y a pas de question du tout. On arrive directement à la réponse. Pourquoi la halakha et pourquoi la halakha est toujours fixée comme le Talmud de Babylone? Parce qu'on nous dit, même si dans le Talmud de Babylone, c'est venu plus difficilement, mais puisqu'on a dû chercher, d'accord, et on a dû s'approfondir, donc obligatoirement, on a vu des détails que les autres n'ont pas vus. C'est comme vous prenez une autoroute, vous roulez très vite, ça roule très très bien. Bah, il y a beaucoup de détails du décor que vous n'allez pas vous rendre compte. Alors que si, il y a les embouteillages, il faut tourner pour reprendre, etc. Là, vous allez voir chaque élément du décor. Vous allez le connaître par cœur.
Les parkings,
tout ce que vous voulez, vous avez tout vu. C'est pour ça que la halakha est fixée comme le Talmud de Babylone. Qu'est-ce qu'on a appris avec ce que je viens de dire ici? Avec ce que je viens de dire, on a appris que des fois, la question fait partie de la réponse. Des fois, ce qui nous a paru comme une question, ce qui nous a paru comme un blocage dans le Talmud de Babylone, en vérité, c'est lui qui m'a permis d'arriver à la réponse. Et c'est lui qui m'a permis d'arriver à une réponse plus profonde que si je n'avais pas eu la question. C'est pour ça que la halakha sera fixée comme le Talmud de Babylone, parce que lui a eu des questions. Alors que dans le Talmud de Jérusalem, ils avaient Ruach HaKodesh direct, connaissaient directement la halakha. Bon. Bekar. Là, je ne veux pas un graphe.
Et sinon. Malgré tout, j'en suis trompé.
Bekar, c'est pas trompé.
C'est pas trompé. C'est parce que tu dis qu'on doit se fier au Talmud de Babylone.
Oui, ça veut dire que au Talmud de Babylone, puisqu'ils ne sont pas fiés uniquement à leur Ruach HaKodesh, mais ils sont partis chercher, ils ont eu des obstacles. Donc quand on a un obstacle, on va chercher plus loin. Il en est de même pour la descente de Avraham en Égypte. Qu'est-ce qu'on a posé comme question tout à l'heure? On a dit, mais a priori, le nom de la paracha, c'est Lech Lecha. Lech Lecha, ça veut dire avancer, monter. Comment tu peux m'inclure dans une paracha qui parle de monter? Tu me parles de l'épisode de la descente en Égypte. Bemabat Chitri Umiyadi. C'est vrai que si on a un look général, on a un look superficiel, ou miyadi et instantané, achenzo yerida. C'est vrai qu'effectivement, être descendu en Égypte, c'est une descente. Aval, mais. Bipnimiyut aïnyanim, mais si on voit dans la profondeur des choses, afa yerida azot, ichelek ma'aliyom el achlecha. Le fait qu'Avram est descendu en Égypte, ça fait partie de la montée. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a gagné? Regardez bien. Atachlit shala yerida, aïta la yel el yek voyoter. Le but pour lequel Avram Avinu est descendu, c'était pour arriver à une montée, quand il en est sorti beaucoup plus fort. Au Kfiche Karab et Poel, comme c'est écrit clairement dans la Torah, va Ya'al Avram et Mitzrayim, que lorsqu'Avram est reparti d'Égypte, Kaved Meod, il était très lourd, ça veut dire très lourd,
riche.
Très riche, d'accord, Bemikne, Bekesef ou Vezav. Il était très lourd matériellement. D'accord, matériellement, donc en bétail, en argent et en or. Puisqu'on sait que Shavram Avinu, ce qui est importé chez lui, c'est le spirituel. Donc c'est sûr que spirituellement, il en est sorti très très fort. Ukshem, chez Etzal Avram Avinu. De la même manière que chez Avram Avinu. Aïta Ayerida Chelaik Ma'aliyah. Ça veut dire en vérité, ce qu'on apprend ici, c'est que des fois, il faut apprendre à prendre du recul. Il faut prendre du recul. Et quand on prend du recul, on voit que un épisode, quand on prend du recul même sur sa propre vie, on voit qu'un certain épisode, qu'au moment où il s'est passé, ça nous a paru quelque chose de négatif, mais quand on prend du recul, on voit qu'en vérité, c'était pour notre bien. Et que s'il n'y avait pas eu cet épisode, on ne serait pas arrivé à cette conclusion. Donc, c'est pour notre bien. Ça veut dire que la Kadosh Baruch Hu ne pouvait pas nous donner le bien directement, il fallait que ça passe par un obstacle. Donc, chez Avraham Avinu. De la même manière que chez Avraham Avinu, la descente faisait partie de la montée. C'est-à-dire que Dieu, pour amener Avraham Avinu au résultat qu'il a eu après la sortie d'Égypte, il fallait qu'il passe par une épreuve. Et en passant, le Midrash va encore plus loin que ça. Il dit que, si vous remarquez, on a exactement la même chose qui s'est passée avec les enfants d'Abraham, par la suite. Nous aussi, on est venus en Égypte. Nous aussi, les Égyptiens ont voulu violer nos femmes. Ils n'ont pas réussi. D'accord. Et nous aussi, après, lorsqu'on est sortis d'Égypte, on est sortis d'Égypte avec beaucoup de force.
Exact.
Mais on a souffert en Égypte. Exactement comme Abraham. Exactement comme Abraham. Ma savot siman la banim. Ça veut dire que quand on regarde, mais d'un autre côté, quand on est sortis d'Égypte, on a reçu la Torah. On en est sorti avec des forces extraordinaires.
Ouais.
D'accord. Ça veut dire que quand on prend du recul, on voit que la descente fait partie de la montée. C'est l'élan, grâce à ça on a pu monter. Donc, Ava, Bifnimiut et Inanim.
Je dirais que c'est la construction de la montée. Voilà. On se construit.
Oui. Donc ça fait partie de la montée.
Oui, c'est la construction.
Car, Yesh Bazé Oral et Dorot. De la même manière, donc on a un enseignement pour les générations. Shega Mayerida Shelzman Agalut. Que même la descente qu'on a en exil. La descente qu'on a en exil, c'est une descente qui nous paraît très grande. Ça veut dire que quand on analyse ce qui se passe en exil, on se dit, mais attends, si on voit comment on était, qu'est-ce qu'on était et qu'est-ce qu'on est devenu, comment on était lorsqu'on était au Beth Amikdash, qu'on n'avait pas de problème, personne n'avait de problème de Parnassa d'abord. Et pas de problème de Parnassa, on vivait avec Akadosh Baruch Hu. Quand on voit tout ça, on se dit, mais on est grave à côté de la plaque ici, on est grave descendu. On vit dans un monde dépravé. Ça nous a l'air une descente extraordinaire, trop forte. Arrête, il faut savoir que, même si on n'arrive pas encore à prendre le recul, mais arrête, bifnimiyuta, mais en vérité, dans la profondeur de cette descente, tsmuna aliyak voa venisgava. On est obligé de dire que derrière cette descente se cache une montée très haute. Ki davka aliyada magim el bet amigdash eshlishi. C'est grâce à cette descente qu'on arrivera au troisième Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il y a de spécial au troisième Beth Amikdash? Shalav Neymar, le prophète Haggai nous dit sur le troisième Beth Amikdash, Gadol yekvod abayit azeh acharon, que l'honneur du dernier Beth Amikdash, donc ça veut dire le troisième, il sera plus grand, yoter min harishon, plus que le premier. Puisque vous savez que le second Beth Amikdash était d'une moindre kedusha que le premier. D'accord? Il y avait beaucoup de miracles qu'il y avait dans le premier qui ne sont pas reproduits dans le deuxième. On dit que le troisième Beth Amikdash va dépasser les deux premiers, même les deux premiers ensemble, si vous voulez. Pourquoi? Parce que pourquoi le troisième Beth Amikdash doit venir difficilement? Parce que le troisième Beth Amikdash doit être issu de notre travail. Donc on est obligé de passer par le travail. Donc ça veut dire que la descente qu'on a maintenant fait partie de la montée. Alors, la suite, vous ne l'avez pas en photocopie, je vous l'ai donné pas.
Maintenant, c'est-à-dire.
Alors,
depuis 1000 ans.
On va parler, d'abord, on parle de 2000 ans, et on va parler aussi de 2009.
C'est le lot de tout un chacun, de chaque juif dans sa
vie. On va tirer encore plus loin. Regardez. Chez Anou Mitbonenim, là, vous ne l'avez pas, je vais vous le dire à l'oral. Chez Anou Mitbonenim, Matzav Haolam, lorsqu'on analyse la situation du monde aujourd'hui, donc en 2009, comme dit M. Bisput, chez Bo'anou Chaim, le monde dans lequel on vit, Veroi Matachocher a gover voler miyom leyom. Et on voit que plus on avance, et plus le monde devient obscur. On voit que quand on analyse comment c'était il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans, il y a 100 ans, on voit que plus on avance, et plus on descend. On voit que nos enfants se retrouvent à faire des choses que nous, on n'avait même pas en tête de faire. Ils vont beaucoup plus loin. Et on voit clairement que plus on avance, plus on descend. Alouli manou les itièche. Alors, lorsqu'on analyse ça, à court terme, on peut être dégoûté, d'accord? Vélichol et Atsmenou et se demander, mais Echef Charles et Edgaber al-Khashachazot, comment on peut être plus fort que cette obscurité? Ou le haïr et taolam beora torah va mitzvot. Comment on peut être plus fort que cette obscurité et éclairer le monde avec la Torah et mitzvot? L'obscurité est trop forte, c'est pas possible. Il y a un problème ici. C'est pas normal. Tu me dis qu'on s'approche de Mashiach, il y a un problème. C'est pas logique. Atchuval kar im sipur yerida shel Avraham Avinu le Mitzrayim. La réponse à cette question se trouve dans l'analyse de l'histoire de la descente d'Abraham en Égypte. Rak miprinat ritsoniut advarim. Que c'est seulement lorsqu'on analyse les choses de manière extérieure, de manière superficielle, Amatsavazé ou Yirida Befer Abracha. C'est là seulement qu'on a dit que le fait qu'Abraham ait descendu en Égypte, c'était le contraire de la bracha, d'accord, pour pas dire le mot, et c'était une descente. Mais dans la profondeur des choses. Mais Acharch et Sof Kol Sof Akadosh Baruch Hu Manig Et Haolam. Puisque au bout du compte, qui c'est qui gère le monde? Qui c'est qui dirige le monde? C'est Dieu. Afa Yirida Zot Chelek Ma'aliyah. Imaginez-vous Avraham. Avraham qui arrive en Égypte, il a un plan galère. Voilà, il se dit, Dieu, il m'a demandé d'aller, en Eretz Israël. Je suis parti en Eretz Israël, je l'ai suivi. D'accord? Non seulement que je n'ai pas vécu tranquillement en Eretz Israël, mais j'ai dû redescendre en Égypte. Donc Avraham Avinu se pose des questions. Il dit, attends, il y a un problème ici. Et quelle conclusion arrive Avraham Avinu? Avraham Avinu, il se dit, même si maintenant je ne vois pas tout de suite pourquoi c'est une montée, mais certainement que c'est Dieu qui a voulu tout ça, c'est Dieu qui a décidé qu'il y ait la famine en Égypte, en Eretz Israël, on peut décider le contraire. Donc si Akadosh Baruch Hu a décidé, ça veut dire qu'il veut que je monte. C'est la même chose qu'on retrouve nous quand on fait Teshuvah, et c'est la même chose nous quand on voit quand on avance vers Mashiach. Une personne fait Teshuvah. Donc il décide de bien se comporter, il décide de suivre Akadosh Baruch Hu. Et dès qu'il décide de faire Teshuvah, là, il a les épreuves qui lui tombent sur la tête. Attends. Je t'ai suivi, Akadosh Baruch Hu. Je t'ai suivi pourtant. Tu m'as dit, je te suis, tu vas me donner la...
Tu vas
me donner la récolte, tu vas tout me donner.
Pourquoi tu m'empêches?
Pourquoi tu fais ça? Ça, c'est quand on voit à court terme. Quand on voit à court terme, d'accord, et quand on ne prend pas du recul, là, effectivement, quand on voit de près, on dit, là, il y a une épreuve. C'est vrai. Mais lorsqu'on prend du recul, et là, vous voyez qu'Abraham Avinu, c'est pas plein une seule seconde. C'est pas plein, jamais il s'est plaint. Il était persuadé. Il voyait pas tout de suite, mais il était persuadé que c'est pour son bien. Il était persuadé qu'en vérité, on voit, quand on prend du recul, on voit que c'est pour son bien. On voit qu'Abraham Avinu, il aurait pu rester un petit papy là-bas en Eretz Israël, je sais pas s'il serait devenu. Là, le fait qu'il est venu en Égypte, ça fait qu'Abraham Avinu s'est grave avancé spirituellement. Et c'est grâce à ça que nous-mêmes, on a pu passer en Égypte, et c'est grâce à ça que le peuple juif a pu être né. Mais achar, chez sof, kol sof, akadosh, baruch, manig, et haolam, af, ayirida, azot, ichelek, ma'aliyah, ve af, aliyada, haolam, mit, alo, mizacher, af, sheno, remizot, va, adraba. Ça veut dire que cette descente-là, est obligatoirement une partie de la montée. Tachlit achoshech agadol. Donc de là la réponse à notre question. Cette question on a posée, on a dit, comment expliquer qu'aujourd'hui, qu'on est en exil, on voit que plus on avance, vous savez ce que dit la Gemara à la fin de Sota, du traité Sota sur l'époque des talons de Mashiach, ça veut dire juste avant que Mashiach revient, il dit qu'au talon de Mashiach, chaque jour, sa malédiction est plus forte que le jour d'avant. Que chaque jour qu'on avance, encore plus de mal, et plus de mal, et plus de mal. Et on le voit. Pas besoin de chercher aujourd'hui. D'accord. Pardon ? Ah oui, on ouvre les journaux, on voit... Qu'est-ce qui remplit les journaux ? Qu'est-ce qui remplit les journaux ? De quoi on parle dans les journaux ? Avant, ils étaient là dans les journaux. Quand vous prenez les journaux de 50 ans, vous verrez, c'était des combats idéologiques. Ben non, c'est pas des combats idéologiques. On dit, un tel, il a tué, et un tel, il a tué ses deux enfants, on les a retrouvés dans le coffre d'une voiture, on va savoir ce qu'on raconte. Des choses aberrantes. Des choses qui arrivaient à l'époque une fois par an, deux fois par an, trois fois par an. Là, aujourd'hui, c'est tous les jours.
C'est le vol d'un vélo. Ouais, d'accord. Les médias ont augmenté aussi.
Non.
On ne savait pas plein de trucs.
Non, on a changé. Les gens sont...
Qui rotent à l'autre
plus on avance, et plus on est dépravé. Donc on descend. D'accord. Plus on avance, et plus on est dépravé. Et là, c'est la réponse à la question. C'est qu'on est obligé de dire que c'est voulu par Akadosh Baruch Hu.
Parce qu'en Afrique du Nord, il y avait quand même... D'accord.
On est obligé de dire que c'est voulu par Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il y a un plan d'Akadosh Baruch Hu, ça se fait pas tout seul, tout ça. Donc on est obligé de dire que même si nous on se pose la question mais comment ma chère peut venir maintenant, on est obligé de dire que Kadosh Baruch Hu est là en train en vérité de nous mettre dans l'obscurité comme dans Talmud de Babylone. Vous savez, Talmud de Babylone, il y a une belle phrase qui dit, le Mahashakim Oshivani, qui dit que le Talmud de Babylone, c'est comme lorsque vous mettez quelqu'un dans une pièce obscure. Et il doit tâtonner pour arriver à la porte. Alors que Talmud Jérusalem, il y a la lumière, donc on voit où est la porte. C'est quoi la différence entre les deux? C'est que dans le Talmud de Babylone, puisque la pièce est sombre et qu'on n'arrive pas bien à voir les choses, donc du coup, le gars, il va connaître la pièce par cœur. Et après, dans la pièce, il va trouver la porte. Dans Talmud de Jérusalem, direct, il prend la porte. Et nous, quand on se pose la question, à court terme, on dit, mais attends, Talmud de Babylone, le gars, en vérité, il s'est pris la tête à chercher une porte, alors s'il y avait la lumière, il le retrouvait en deux secondes. C'est bon, le pauvre, mais il a perdu son temps. C'est ce qu'on a envie de dire. Attends, t'avais allumé la lumière, t'aurais vu. Qu'est-ce qu'on a répondu? On a dit non. le fait que Dieu a fait que la pièce soit sombre et qu'il a dû tâtonner 20 fois plus pour chercher la porte, d'accord, c'est voulu par Akadosh Baruch Hu pour qu'on connaisse mieux la porte et pour qu'on apprécie beaucoup mieux le fait d'avoir trouvé la porte. C'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu nous fait pour Mashiach. Exactement ça. Et c'est pour ça, avec ça on a répondu à notre question initiale, c'est pour ça que dans la paracha Lech Lecha, la paracha Lech Lecha qui est censée nous parler uniquement donc d'événements qui parlent de l'avancement d'Abraham Avinu, de quoi on nous a parlé? On nous a parlé également de la descente en Égypte, puisque la descente en Égypte, non seulement que c'est pas une descente, mais au contraire, celle qui a permis de monter. Donc de là on apprend pour nos épreuves, de là on apprend pour Mashiach, de là on apprend pour beaucoup de choses. Exactement. C'est un principe à bien réfléchir.
Lech Lecha. Et le mot de la fin, c'est que la lumière sortira de l'obscurité la plus noire.
Oui, non mais, encore une fois. Ouais. La question que les gens vont vous poser, ils vont dire, mais pourquoi tu dois passer par l'obscurité pour arriver à la lumière? Et la réponse est là. C'est qu'on apprécie on apprécie la lumière que lorsqu'on est passé par l'obscurité. Cette lumière-là, si je l'avais amenée comme ça, tu aurais dit, bon, on sait rien, je m'en fiche. Mais lorsqu'on est passé par l'obscurité, et qu'après on a quelque chose qui vient, c'est comme lorsque quelqu'un pendant des mois et des mois il n'avait pas un franc. Comme, d'accord. Et après,
comme
et on reçoit une somme, il apprécie. Alors si directement tu viens depuis qu'il est né, tu lui donnes, il apprécie pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, Kadosh Baruch fait descendre une personne, mais pour son bien, pour qu'il soit mieux à même d'apprécier ce qu'on va lui donner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la descente faisait partie de la montée.
C'est la montée.
C'est elle qui a permis la montée.
La descente, c'est la montée.
Lech Lecha. Voilà.
On parle du troisième Beth-Amigdash dans Chagai.
Oui,
prophétie.
Oui, bien sûr.
Ah ouais.
Mais très court, pas beaucoup.
Ah d'accord,
ouais.
Il faut lire entre les lignes. Alors,
ouais.
Là, on voit le troisième Beth-Amigdash.
Oui, oui, bien sûr.
Il est vraiment troisième.
Ah oui, le dernier, oui. Parce qu'il parle au futur et il dit le dernier Beth-Amigdash.
Ah, le dernier ou le troisième?
Non, le dernier.
Ah d'accord, ok.
Mais il parle au futur.
Oui.
Il dit il sera, alors qu'il y avait déjà le deuxième Beth-Amigdash.
C'est ça, oui.
Mais c'est sur ce que je vous souhaite
Lech Lecha. Lech Lecha, voilà, Hazak.
Salut.
Prends le métro pour monter.
Mais on voit comment en vérité on nous apprend à prendre du recul. Lorsqu'on prend du recul, on voit que il n'y a rien de négatif qui arrive dans le monde.
À long terme.
À long terme.
Mais pourtant il y a du mal.
Il y a du mal, mais à long terme, c'est pas du mal. Voilà.
Le mal, il y a le bien.
On s'arrête ici.